Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic, la dernière de l'année, que vous retrouvez tous les quatrièmes vendredis du mois. Pour présenter l'émission, Damien et Mathieu, à la technique Ness ce soir. Notre émission ce soir est consacrée aux politiques d'aménagement, l'urbanisme et écologie, les impacts de l'urbanisme sur l'écologie. Nous avons trois invités ce soir. Donc, Julie Delcroix, qui est chargée de programme urbanisme et habitat durable au sein du WWF France.
Bonjour.
Nous avons également Samuel Poisson, qui est chargé de projet au bureau de recherche Aménité. Ça signifie aménagement, environnement, territoire pour un développement durable.
Bonsoir.
Et nous avons également réalisateur Pierre Guetchel, qui a réalisé le documentaire Rond-Point en 2010.
Bonsoir.
Vous pouvez bien sûr appeler l'émission au 01 40 05 06 10 et intervenir à tout moment. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'émission sur le site internet de la Fondation Copernic. Vous pouvez la podcaster.
Bonsoir à tous. Donc, je vous propose de commencer d'abord par l'état des connaissances sur le phénomène d'étalement urbain. Alors, je me retourne vers Samuel Poisson pour nous dire un peu... connaître un peu la définition de ce terme étalement urbain, l'état des connaissances, à quel moment il est apparu et peut-être éventuellement commencer à évoquer les causes de l'étalement urbain.
Comme beaucoup de choses, ça nous vient notamment des États-Unis. Il y a une auteure qui s'appelle Dolores Hayden qui a beaucoup travaillé là-dessus. En fait, initialement, le mouvement de quitter la ville pour la campagne, c'est un mouvement hygiéniste. C'est le désir de se mettre au vert, etc. Donc c'était réservé à une élite. Et puis, comme aux États-Unis, on a inventé la consommation de masse. On a aussi généralisé l'idée de quitter la ville pour la campagne. Et du coup, même la maison individuelle, par exemple, c'est devenu un produit de consommation de masse qu'on pouvait acheter sur catalogue, monter éventuellement soi-même, pour ceux qui y arrivaient, ce qui était assez rare. Ça a permis aussi de généraliser beaucoup d'autres produits. C'est-à-dire que une fois qu'on avait généralisé la maison individuelle, il était très facile de généraliser la voiture individuelle. C'est ce qui s'est passé immédiatement après-guerre avec la prime de retour pour les GI, qui ont été assez nombreux à s'installer dans ces nouvelles zones pavillonnaires. Et plus tard, en fait, il y a aussi un arrière-plan politique à ça, c'est-à-dire que on considérait aussi que la personne qui était occupée avec son pavillon, son petit jardin, etc., avait beaucoup moins de chances de se retrouver dans la rue à manifester contre le pouvoir en place.
Et alors après, le phénomène a passé l'Atlantique, ça s'est diffusé en Europe, notamment en France, ça se concrétise à partir de quelles années à peu près ?
Pour nous, c'est un peu plus récent. Je dirais les années 50-60, mais je me retourne aussi vers les compagnons pour confirmer ça.
Oui, alors bonjour. L'étalement urbain, oui, ça a commencé en effet pas mal après la Seconde Guerre mondiale. On a vendu, comme on disait, le modèle de la maison individuelle. Je voulais revenir rapidement à la définition aussi de l'étalement urbain pour expliquer un peu. En fait, l'étalement urbain, c'est pas juste construire des logements, des routes, de la ville, etc. L'étalement urbain, dans cette idée-là, il y a le fait que on consomme. Beaucoup plus l'augmentation de la consommation du sol, du foncier, etc., pour construire et faire tout ça, produire des logements, est beaucoup plus importante que l'augmentation de la population. Donc il y a vraiment un décalage entre une augmentation de population et la consommation des sols. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça étalement, donc sprawl en anglais, etc. Et cet étalement urbain, il est lié donc à la consommation pour produire des maisons individuelles, collectives, etc. Mais il y a ça ne représente que 50% des surfaces qui sont urbanisées, artificialisées. Le reste, ce sont les infrastructures de transport, donc les ronds-points dont on a parlé tout à l'heure, les zones d'activité, les zones de commerce, les industries, etc. Voilà. Donc, on parle beaucoup souvent dans l'étalement urbain de la cause de la des constructions avec des grands jardins autour, des lotissements qui à l'infini, mais il y a aussi bien sûr tout ce qui est tout le reste qu'il faut pas oublier dans cet étalement urbain. Et une autre chose qui me paraît importante aussi, c'est de dire donc l'étalement urbain, bien sûr, ça a été du fait qu'on a vendu la maison individuelle loin de tout, etc. Mais c'était aussi le modèle commercial. Hein. Donc le modèle commercial qui vient aussi du coup des États-Unis aussi pas mal, des grandes zones d'activité et de commerce qui ont été développées près des dessertes routières, des grandes dessertes routières à la périphérie de la ville, avec des grandes places de parking à côté, parce que on peut venir qu'en voiture et le samedi il y a plein de gens qui viennent en voiture, donc il faut assurer plein de places pour les accueillir, et puis que c'est des zones commerciales qui sont développées en boîte à chaussures, sans étage, etc., parce que le foncier ne coûtait rien. Enfin voilà, il y a aussi cet aspect-là, plus toutes les infrastructures de dessertes routières qui vont avec. Et un autre point qui me semble important aussi, c'est de dire que on parle beaucoup d'étalement urbain, mais derrière, il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle l'éclatement urbain, donc c'est un mot un peu barbare pour dire que, en fait, il y a aussi le fait que l'endroit où on va habiter, où on va loger, va plus du tout être le même que l'endroit où on va pouvoir acheter son pain, faire ses courses, l'endroit où on peut faire des démarches administratives, aller chez le médecin, enfin, ou même l'endroit où on va pouvoir aller s'amuser, en fait, tout ça a été en fait éclaté, et bien sûr dans le moteur, il y a eu la possibilité qui a été donnée par la voiture individuelle de pour tous, hein, parce que ça a permis de ne plus avoir besoin d'habiter à côté, justement. Et en fait, les gens sont allés, du coup, dans le rêve dont on parlait, justement, de la maison individuelle dans la nature, etc. Ils ont pu répondre à ce rêve en allant toujours plus loin, parce que la voiture allait de plus en plus vite, parce que les dessertes routières étaient développées. Donc il y a vraiment eu un espèce de cercle infernal qui s'est fait. On peut aller toujours habiter plus loin, dans un temps toujours plus court. Donc voilà.
C'est vrai qu'on nous a parlé au moment du commencement, hein, de ce phénomène, d'une amélioration, hein, de la qualité de vie, préférence individuelle, surtout à une époque où le carburant était faible et les produits énergétiques étaient faibles, donc les choix vous parliez d'infrastructures tout à l'heure, coûtaient moins d'argent. Je me retourne vers Pierre, donc réalisateur, hein, du documentaire Rond-Point, puisque vous avez pu parcourir à travers ce documentaire une vision artistique, poétique de ce phénomène. Quel est votre retour, vous, sur un peu cet historique, lors de vos rencontres avec riverains, élus, j'imagine que vous avez pu avoir quelques histoires sur l'historique de ce phénomène.
C'était pour moi une circulation poétique, c'était une circulation humoristique, mais c'était aussi circulation critique, bien sûr, dans cet espace étalé de la ville et qui s'étale se propage un peu, une espèce de ville dans ses métastases et dans ses ramifications qui infusent tout le territoire. Et ce film s'appelle Rond-Point, mais ça aurait pu aussi s'appeler l'identité française, c'est-à-dire que on représente toujours la France sur les campagnes des affiches électorales par une église et un paysage de campagne. Le véritable visage de la France aujourd'hui, on pourrait se dire, eh bien, que ce sont les ronds-points qui sont le signe de cet étalement urbain sans fin, de cette conurbation, de cette périurbanisation, de tous ces nouveaux mots qui sont apparus, en fait, dans les années 80. Hein, c'est un phénomène qui a explosé. Les ronds-points, ils sont le signe de cette explosion urbaine.
Parce qu'on a l'impression que ça a toujours existé, mais en fait, c'est pas si vieux que ça, finalement.
C'est une explosion très récente. Alors, au début, si on voulait faire l'historique de cet objet banal et ordinaire, il faudrait remonter au milieu, au début des années 80, quand un ministre des Transports, qui s'appelait Charles Fitterman, a mis en place ce décret à la priorité à l'anneau. C'était une décision strictement technique et qui a eu des héritages absolument gigantesques. L'objet technique est devenu un objet qui a intéressé les politiques, les aménageurs de tout poil. Et autour de cet objet, eh ben, on a vu se connecter les zones dont on parlait, les AC, les I, les UP, et toutes ces ramifications et ces métastases de la ville qu'on peut interroger d'une manière un peu ironique peut-être avec cet objet, cette galette.
Et toutes ces formes sont développées un peu en même temps. Samuel, est-ce que vous pouvez un peu nous revenir sur... On a parlé du phénomène de l'étalement urbain et... Est-ce que c'est seulement le résultat on a parlé de mélange de décisions individuelles pour sortir de la ville et de décisions politiques sur des stratégies d'aménagement. Comment vous voyez les choses, où c'est un mélange des deux, c'est pas...
C'est tout ça à la fois, et l'arrière-plan du politique, il est économique aussi. Le prix de l'énergie qui a permis tout ça, c'est la grande distribution qui a poussé pour que ça arrive. C'est un contexte politique au sens élargi, c'est-à-dire fait de la totalité du politique, les individus qui le composent et les réglementations qui les entourent. Tout ça, ça a permis l'arrivée du...
Couplé, j'imagine, avec une compétition entre politiques, entre municipalités, parce que à une époque et toujours maintenant... Chaque commune souhaite, on parle de développement territorial, accueillir de nouvelles entreprises, de nouvelles personnes. C'était, on va dire, à l'époque, plutôt des choix d'aménagement des territoires individuels plutôt que collectifs.
C'est une possibilité pour les communes de se financer, en fait. C'est-à-dire que plus je crée de la zone commerciale, de la zone d'activité, plus je suis en mesure, en tant que maire, d'assurer des revenus à ma commune. Et du coup, il y a une fuite en avant dans la construction de ces zones-là.
Alors on a dit, moi je voudrais juste ajouter une chose, on a dit c'est un sujet politique, mais en fait c'est un sujet aussi, pour dire un gros mot, c'est un sujet transpolitique, c'est-à-dire que ce qui est fascinant quand on regarde le développement de l'aménagement du territoire en France depuis une trentaine d'années maintenant, ce qui en fait la caractéristique, c'est qu'effectivement c'est un phénomène transpolitique, c'est-à-dire que de droite comme de gauche, tout le monde a emboîté le pas dans les mêmes logiques au fond d'aménagement du territoire, si bien que le fait marquant de la France aujourd'hui, après 30 ans de cette dynamique, c'est que les villes et leurs périphéries se dessinent un peu de la même façon. Qu'on soit dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, on retrouve un peu les mêmes schémas de rocade, de périurbanisation, qui fait que le paysage devient un peu standard, qu'il y a un effet de standardisation du paysage.
Mais c'est pas paradoxal, parce que là on parle de d'étalement urbain et donc du coup un peu ce regard critique, mais toute cette philosophie, en tout cas ces choix d'aménagement, ont d'abord été pensés pour améliorer la qualité de vie des habitants, on parlait de préférences individuelles, mais je parle aussi de peut-être la dégradation aussi de la qualité de vie en milieu urbain. Pollution atmosphérique, bruit, insécurité, manque d'espace vert. Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, un côté un peu paradoxal sur ce phénomène d'étalement urbain, sur ce regard critique, et en même temps la volonté d'améliorer une qualité de vie des habitants du territoire. Julie, peut-être ?
Oui, bien sûr, oui. Tout à fait, en fait. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que si, en effet, les gens ont voulu fuir les villes, c'est que ils étaient... fuir ou parce que à un moment donné ils voulaient plus de place, c'est qu'en effet que les villes n'ont pas toujours été très agréables à vivre, même si ça a beaucoup changé quand même dernièrement. Il y a eu beaucoup de reconquêtes de centre-ville, etc., de remettre de la qualité de vie. Il y a non seulement ils voulaient quand on a un enfant en plus, etc., par exemple, avoir une surface plus grande, ce qu'ils peuvent pas forcément trouver en centre-ville, ou alors pour des prix qui ne sont pas atteignables. Ils voulaient peut-être plus de nature aussi, avoir une pièce en plus, entre guillemets, en dehors, un jardin. Il y avait le problème aussi du bruit, en effet, dont on a parlé. Alors, la pollution atmosphérique, ça doit jouer aussi, mais voilà. Les villes n'étaient pas, ou certes, beaucoup n'étaient pas faites pour... elles étaient faites pour loger, mais pas pour faire habiter, entre guillemets, ou dans le grand sens, les habitants. Donc, il y a eu vraiment aussi cette question-là, et aussi un moteur économique, quand même, parce que le foncier en ville ou proche des transports en commun, etc., était très cher. Donc, il y a eu forcément ce mouvement-là qui s'est accompagné du fait que voilà, la ville, le pétrole était pas cher, avec la voiture on pouvait aller loin, et on pouvait aller loin là où justement il y avait des petites, des communes rurales qui avaient été désertifiées, qui risquaient de fermer leur école et qui accueillaient à bras ouverts de nouveaux habitants. Et il y avait en même temps à côté, bon, je simplifie un peu, mais voilà, l'agriculteur qui prenait sa retraite et puis qui était très intéressé pour vendre son foncier beaucoup plus cher qu'il aurait vendu à un agriculteur, qui ça lui permet quand même de faire une retraite qu'il n'a pas forcément. Donc il y a pas mal de phénomènes qui ont vraiment alimenté ça. Et parmi ces phénomènes, on peut aussi citer déjà le fait que l'habitat plus proche des transports en commun ou plus dense, on a eu l'impression que c'était forcément des tours en deux banlieues qui sont mal vues, etc. Et c'était ça, ou la maison individuelle au milieu de la nature, au milieu de son jardin. Donc voilà, on a aussi un peu imposé, alors que c'est pas du tout le cas dans d'autres pays, en France, deux modèles, voilà, la tour qui plaît pas, entre guillemets, et la maison individuelle, qui est aussi, voilà, on est fiers, on possède une maison, etc., avec son jardin, enfin voilà, où on peut élever sa famille. Il y a eu vraiment deux modèles qui se sont développés complètement antinomiques, alors qu'on sait très bien, on va en parler tout à l'heure, qu'il y a plein de choses entre qui ont été développées dans d'autres pays. Et à côté de ça, il y a eu en effet aussi qu'alimenter les aides du gouvernement, tout ce qui est prêt au zéro, les aides celliers, périsol, etc., pour l'investissement locatif. Toutes ces aides-là, qui ont été zonées en vraiment grand territoire où il n'y avait pas forcément besoin de logement, ont alimenté cette course à construire du logement là où forcément il n'y avait pas besoin, là où c'était pas forcément là où on de façon à s'étaler, et plutôt que d'acheter de l'ancien, de réhabiliter, etc. Donc il y a eu ça, et enfin il y a eu aussi le fait que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que aujourd'hui le pouvoir de décider de donner le permis de construire, hein, que ça soit pour un commerce ou pour un logement, c'est entre les mains de 36 000 rois, entre guillemets, dans leur royaume. Donc 36 000 maires, parce qu'il y a à peu près plus de 36 000 communes en France, et tout aujourd'hui ont cette compétence qu'on appelle urbanisme et de donner le permis de construire. Et donc, voilà, il y a la compétitivité économique entre maires et villes dont on a parlé tout à l'heure. Aucune réflexion à l'échelle plus globale du territoire ou du bassin de vie. Chacun veut recevoir plus d'habitants, plus de zones d'activité. Donc il y a eu aussi ça qui a vraiment contribué à l'étalement urbain aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de planification globale de qu'est-ce qu'on a besoin de comme logement ou de commerce, etc. Voilà.
Après avoir bien cerné le phénomène et on abordera tout à l'heure les effets, notamment sur l'environnement et puis les différents moyens de lutter contre l'étalement urbain, on va faire une première pause musicale avec La Fée Électricité du groupe Zoufri Maracas.
Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêt à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants, les petits gars de l'EDF. Terre par tête, mets tous la gueule par terre.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic est consacrée aujourd'hui aux impacts de l'aménagement de notre territoire sur notre environnement et plus globalement sur notre société. Donc nous avons la chance aujourd'hui de recevoir on va dire une diversité d'invités dans leurs compétences. Donc on souhaitait aborder maintenant les effets, hein, de l'étalement urbain sur l'environnement et peut-être plus globalement sur sur la société, je me retourne vers Pierre au regard de son expérience, hein, de son parcours initiatique à travers les ronds-points. Quel est votre regard, ou en tout cas quelles conséquences vous avez pu voir de ce phénomène étalement urbain?
Je pense que les conséquences, elles sont multiples parce qu'elles touchent en réalité à tous les aspects de la vie dans son organisation sociale, économique et culturelle. Donc les conséquences, elles sont évidemment colossales et ça serait bien difficile d'en faire le tour rapidement. Ce que moi je peux dire comme observateur, puisque finalement j'y suis allé surtout avec mes yeux dans ce parcours de la France périurbaine, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce d'effet de standardisation. Une espèce d'effet de standardisation sur le paysage qui se met à se ressembler à soi-même un peu partout où on se trouve. Alors on parle beaucoup du territoire aujourd'hui, de la diversité des territoires, mais le fait marquant, c'est d'abord son uniformisation. Et c'est aussi, bien sûr, une uniformisation des modes de vie. C'est-à-dire que le mode de vie consiste surtout dans une économie du déplacement, hein. Je pense que le fait marquant de cet étalement du territoire, c'est que la vie s'organise beaucoup autour du transport, du déplacement, de la mobilité, qui devient le sujet numéro un pour les aménageurs, pour les politiques et pour les techniciens. Et donc on est dans un paysage de la route. On est dans un paysage de la route et dans un paysage aménagé qui ressemble parfois à un décor. On n'est pas forcément dans des choses très laides. On est des fois dans des choses très très aménagées et très avec des effets esthétiques très forts. Alors, comme disait Marc Auger, on nous a construit un décor. La question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le décor? Peut-être rien, je ne sais pas.
Samuel, peut-être sur les conséquences climatiques, environnementales de l'étalement urbain.
Bon, j'aimerais rebondir sur les modes de vie, enfin, l'espèce d'homogénéisation des modes de vie. C'est quelque chose qui a été détecté assez tôt, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le périurbain, c'est un bridage des modes de vie. On occupe les gens à se déplacer, par exemple, ou à entretenir leur propriété. C'est la construction d'un monde de propriétaires aussi. Voilà, le prêt à taux zéro, etc., c'est l'encouragement de l'accès à la propriété. Et ensuite, lorsqu'on se retrouve à l'extérieur, isolé, c'est aussi, en tout cas aux États-Unis, ça a été beaucoup décrit comme ça, l'encouragement de la répartition genrée des tâches. C'est-à-dire qu'on se retrouve à l'extérieur de la ville avec un seul véhicule, eh bien, c'est monsieur qui prend le véhicule, qui va travailler pendant que madame s'occupe des tâches reproductives, parce que finalement elle n'a pas le choix. Et donc voilà, c'est une harmonisation des modes de vie vraiment sur ce mode-là.
Alors, on a la chance peut-être ce soir d'entendre le point de vue du WWF. Alors on parle beaucoup d'augmentation du prix des énergies, de crise climatique, de lutte contre le changement climatique, mais également d'adaptation des territoires. Alors peut-être plus globalement, les impacts de ce phénomène sur le réchauffement du climat aujourd'hui.
Oui, tout à fait. On a été justement regarder ce phénomène de près parce que, en se disant, tiens, on veut lutter contre les changements climatiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre, on a vu qu'on y arrivait à peu près pour le bâtiment, on savait à peu près comment faire. Bon, ça, il y a encore plein de choses à faire, hein, c'est pas ce que je veux dire. Pour l'industrie, qu'ils avaient réussi à réduire, même s'il y a encore beaucoup de choses, énormément de choses à faire. Mais pour le transport, non, c'est le secteur qui résiste, hein. Il y a quand même plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, hein, qui sont dues au transport, notamment motorisé individuel, hein. Là, je parle pas de la logistique, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup, en fait, de chacun qui prend sa voiture. Et c'est un secteur qui est très difficile à réduire. Parce que les gens, tout ce dont on a parlé de l'étalement urbain, mais en général la façon qu'on a de faire des villes et des territoires à la française, comme ça éloigne en fait les personnes, leur logement de là où ils doivent faire leurs activités quotidiennes, qu'ils sont pas forcément prêts d'une desserte de transport en commun efficace. Hein, je parle pas du bus qui est du car qui passe que tous les deux heures et qu'on peut pas considérer comme un moyen de se déplacer, etc. Que même aussi, bah voilà, l'urbanisation, elle est peut-être même des fois pas faite pour marcher, en fait. Il n'y a pas de trottoir, voilà. On ne sait plus des villes marchables qu'on a parfois, notamment en périphérie. Eh bien, les gens sont enfermés dans le fait de devoir avoir une, deux voitures, voilà. S'ils veulent se déplacer, amener leurs enfants à l'école, même acheter une baguette, il faut qu'ils prennent leur voiture 3-4 fois par jour pour faire tout ça. Et comme c'est lié à la façon, à la répartition géographique des activités, à la façon de la forme urbaine, en fait, qui est très difficile à faire bouger, c'est un secteur qu'on a vraiment beaucoup de mal le secteur des transports, à réduire l'empreinte carbone, en fait. Il y a des choses qui se développent, des alternatives, mais c'est d'autant plus urgent de changer, d'ailleurs, la façon de faire la ville. Alors, on a des exemples. Hein. On dit que, par exemple, un habitant du périurbain, il se déplace, il prend en moyenne 40% de plus sa voiture que quelqu'un qui habite dans une ville-centre. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres qui sont sortis. J'ai pas tous vous les donner. Ou il émet aussi deux fois plus de CO2. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui se développent. Et donc cet impact sur le, c'est pour ça que le WWF s'est intéressé à cette question-là, pour voir en fait, rentrer dans la ville entre guillemets et l'urbanisme pour essayer de voir comment on pouvait réduire ce secteur, mais pas seulement. C'est parce qu'il y a aussi d'autres impacts, des impacts sur la biodiversité qui nous tient aussi à cœur. En effet, l'étalement urbain, la construction d'infrastructures, etc., va non seulement consommer et donc détruire directement des habitats pour la nature, etc., de la nature, qu'elle soit des secteurs naturels ou agricoles, mais aussi va fractionner et faire autant de petites îles de biodiversité avec les routes qui sont là pour desservir, ou même les autres infrastructures ferroviaires, etc. Et en les fractionnant, ça fait que on parle beaucoup de corridors écologiques en ce moment. On en parle parce que il y a plus la faune est stoppée pour faire ses activités quotidiennes à elle, qui sont à peu près les mêmes, d'aller de se reproduire, de manger, de se déplacer pour tout ça. Et donc voilà, on a une érosion de la biodiversité qui est liée à cette fragmentation, à cette destruction des habitats naturels. Voilà. Alors c'est sans parler des autres impacts qui d'ailleurs vont rendre plus difficile l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire toute cette artificialisation des sols, hein, elle se fait vraiment avec beaucoup de goudron qui fait que la pluie qui tombe sur un territoire, au lieu de s'infiltrer, elle va ruisseler sur toutes ces routes et ces parkings, etc. Et elle va arriver très 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 vite au niveau des fleuves, des rivières. Et au lieu donc d'être stoppée et d'avoir une rétention, elle va arriver tellement vite que les risques de crues sont augmentés. Alors déjà que les risques de crues sont augmentés avec les changements climatiques, alors là je vous raconte pas. Et donc il y a aussi destruction des terres naturelles agricoles, donc pour l'agriculture. Et il y a aussi un point très important de cet enfermement dans le modèle du tout voiture, c'est que aujourd'hui, et ça c'est une étude de l'ADEME qui l'a montré, il y a des gens qui sont entre guillemets coincés chez eux s'ils ne peuvent plus payer le pétrole pour se déplacer. Ça même devient même des fois plus intéressant de pas travailler, hein, c'est pour dire. Il y a 9 millions de personnes en France qui sont dans une situation de vulnérabilité énergétique, pas par rapport au chauffage, peut-être aussi par rapport au chauffage, mais par rapport au transport.
Oui, ce dernier point est intéressant. Donc on parle en effet de précarité, enfin de double peine, hein, précarité énergétique, habitat, mobilité. Peut-être plus je me retourne vers Pierre, peut-être plus au sens plus global sur, on parle d'inégalité, peut-être, est-ce que vous avez perçu au travers ce Tour de France une égalité des territoires de division sociale? Alors on parle d'accessibilité des services publics ou autres. Lié à ce phénomène, hein, toujours d'étalement urbain.
Deux choses là-dessus. C'était Éric Rohmer dans L'Arbre, le maire et la médiathèque qui disait l'important, ce sont les accès. Alors effectivement, ce à quoi a consisté la conséquence directe de l'étalement urbain, ça a été l'obsession des aménageurs, c'était qu'il puisse y avoir un accès, qu'on puisse accéder à quoi ? C'était d'accéder essentiellement au centre commercial ou à la zone commerciale qui se développait en périphérie de la ville. Est-ce que tout le monde a des accès identiques ? En tout cas, au supermarché, certainement. Le parking, c'est le monument de cette époque de l'étalement urbain. S'il y avait une œuvre conséquente de ce phénomène, ça serait celui-là, ça serait le parking. Sur les territoires et sur les disparités sociales, Je pense à tout à fait autre chose. Quand on a fait ce film, on se promenait beaucoup en France et on voyait se reproduire les mêmes schémas que je n'avais pas du tout anticipé. On arrivait toujours dans des villes dont les aménagements publics, dont les aménagements urbains étaient tout à fait rutilants et scintillants même. Très belles avenues aménagées, très beaux ronds-points, très beaux accès. Il y avait toute une politique de la ville qui voulait s'illustrer là, dans le paysage de ces accès, de ces rocades, de ces centres aménagés, qui était aussi le fait à l'époque de ces financements liés à l'activité industrielle des villes. Et le fait marquant, en fait, c'est qu'on était dans des décors tout à fait somptueux, mais chaque fois se reproduisait le même scénario, c'est-à-dire que les industries qui finançaient ces espaces étaient toutes en train de s'effondrer. Et le parcours était un parcours, on s'est retrouvé comme ça, dans la ville où il y avait Molex, dans une autre ville à Lac, dans le bassin gazier de Lac, où toutes ces industries gazières étaient en train de fermer. Et donc il y avait une espèce de faux raccord entre l'espace aménagé de la ville et le tissu social qui était en pleine déliquescence. Et c'était tout à fait frappant de voir d'un côté la détresse sociale et économique de ces territoires industriels, lesquels territoires industriels étaient ceux qui avaient donné le plus en termes d'aménagement de la ville et de ces ronds-points, de ces parkings, de ces places et de ces conurbations.
Du coup, face à tous ces effets écologiques, sociaux sur les territoires, on se demande bien quels peuvent être les moyens de lutter contre l'étalement urbain, parce que c'est un mélange de décisions individuelles et puis de politiques d'aménagement. Samuel, vous avez une piste à nous donner?
Quelque chose pour augmenter un peu le désespoir d'abord.
Non, on a déjà assez donné.
Non, mais sur le fait de se trouver un peu pris au piège du village lointain, en fait, on dit qu'il y a une équivalence entre... En gros, on est constant entre ce qu'on consacre à se loger et ce qu'on consacre à se déplacer. C'est-à-dire que quand on se loge pour très cher, on se déplace assez peu et du coup, c'est assez peu onéreux. À l'inverse, la spéculation des zones urbaines fait que y a beaucoup de gens qui s'éloignent de plus en plus, mais qui du coup augmentent leurs dépenses de transport. Et quand l'énergie augmente, les dépenses de transport augmentent et c'est là qu'ils se retrouvent pris à la gorge. Pour sortir de là.
Du coup, on voit un peu une solution, c'est que c'est pas qu'une politique d'aménagement. Il y a tout ce qui concerne le logement, l'habitat, qu'il faut travailler. Quoi. Ouais.
Y a un consensus parmi les urbanistes qui défend la ville dense, etc. Et ça depuis longtemps, quoi. C'est-à-dire que ça fait 20 ans facilement que. Tous les urbanistes qui interviennent en tant que consultants auprès des maires défendent ça, essayent de retenir les chevaux de la consommation des terres agricoles, etc. Donc la prise de conscience, elle n'est pas récente, elle existe, mais
il y a du temps à se concrétiser.
Voilà, la force de l'économie en arrière-plan est telle que... Enfin, l'économie et des habitudes de faire aussi, des restes de l'histoire territoriale française qui font que...
Julie, vous, WWF, vous avez des préconisations à donner à vos interlocuteurs dans les collectivités?
Oui, alors, il y en a beaucoup, hein, mais en effet, on a développé une campagne urbanisme pour une ville désirable, donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le site du WWF, où on a voulu montrer qu'il y avait une autre façon de faire la ville. Bon, on n'a pas trouvé ça tout seul, hein, on est allé voir plein de gens qui réfléchissent à ça, des acteurs de la ville, urbanistes, architectes, paysagistes. Et l'idée un petit peu qui s'est dégagée, c'est de dire, la vision, c'est de dire, voilà, il faut qu'on développe, qu'on développe de l'habitat et pas du logement. Plus clairement, il faut qu'on réfléchisse l'homme dans son dans ses activités quotidiennes, et il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait tout ça à proximité et qu'il soit aussi relié par des transports en commun efficaces à aux activités dont il a pas besoin tous les jours, mais voilà, le cinéma où il a besoin, il a envie d'aller plus les parcs, etc. Donc il y avait un peu cette vision un peu globale qu'on appelle en autre nom barbare urbanisme des courtes distances, ou alors il y en a d'autres qui disent à portée de pied, à portée de pantoufle, enfin voilà, qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que on fait ce que...
Aller chercher son pain en chaussons, quoi.
Voilà, exactement. Tout à fait ça. Ce qui était fait avant, hein, dans les villes, avant que, voilà, on parle de tout ça, la voiture individuelle, etc., et ce qui est encore le cas dans certains centres, etc. Mais qu'on le fasse pas que dans les centres-villes, hein, qu'on le fasse partout, et que dans les centres-villes, on le fasse aussi. On remette, et c'est, et du coup, on touche à d'autres questions qui sont la mixité sociale, qu'on remette aussi la mixité sociale pour que tout le monde puisse avoir accès pour que ça soit accessible, d'être proche des desserts de transport en commun et de toutes les activités, parce qu'il y a cette question-là aussi de voilà, pas de ségrégation sociale. Donc ça, c'est un peu la vision qu'on développe en disant, ben voilà, de quoi les gens ont vraiment besoin. Ils n'ont pas besoin de la voiture, ils ont besoin d'avoir accès à des services. Donc voilà, on réfléchit comme ça. Ils n'ont pas besoin de forcément avoir 4000 mètres carrés de jardin. D'ailleurs, ils veulent pas forcément. Ils veulent, y en a qui veulent, ils se disent, oh non, on va passer tout notre week-end à faire du jardinage. Ils ont besoin d'une forte présence de la nature près de chez eux, au pied de leur immeuble, dans un jardin juste à côté de chez eux, une grande terrasse, un grand jardin, enfin voilà. On n'est pas à dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils se développent partout, mais on dit attention, parce qu'aujourd'hui, on a en effet le discours de densifier. Ça dépend où. Hein, Paris, il ne faut pas densifier forcément plus que cette année aujourd'hui. Il faut plutôt dédensifier et puis réfléchir à l'échelle du Grand Paris. Densifier, donc on préfère parler, nous, de faire un urbanisme des courtes distances qui se traduit différemment selon les contextes, avec tout ce dont on a parlé, et de se dire, attention, il faut aussi parfois remettre de la nature en ville, et attention, la densité... Plus de densité, ça ne veut pas dire les tours, parce que là, ça a été d'ailleurs démontré par les urbanistes, c'est que voilà, les barres d'immeubles dont certaines personnes ne veulent pas, bah, elles sont de toute manière moins denses que Paris haussmannien, le Paris haussmannien, ou même que
les maisons de ville mitoyennes.
Des maisons de ville mitoyennes, tout à fait, la maison de ville mitoyenne avec le jardin derrière, voilà.
De mémoire, c'est genre 100 à 120 logements par hectare sur une maison mitoyenne, alors que sur une barre traditionnelle, on est plutôt sur du 80, 70 logements par hectare. Donc
voilà.
En effet, ça vous donne raison. Et du coup, cette redensification, ça passe par où? Peut-être par un redéploiement aussi des compétences. Vous parliez des communes qui faisaient un peu chacune sa politique dans son coin. C'est peut-être aussi réfléchir à une prise de compétences à un niveau supracommunal sur ces thématiques.
Oui, alors bien sûr, ça veut dire que toutes ces questions de voilà, développement des commerces, des politiques logement, articulation avec le transport, etc., tout ça, donc c'est de l'urbanisme en fait, la réflexion spatiale, où est-ce qu'on met toutes ces activités, les logements, comment on les relie, etc., ça doit pas être fait à l'échelle des 36 000 communes dont on parlait tout à l'heure, ça doit être fait à l'échelle des intercommunalités. Ça, c'est un des points forts du projet de loi urbanisme et logement de Duflo, qui est en cours de, voilà, qui est passé au Conseil des ministres et qui passera à l'Assemblée nationale en septembre. Donc ça, c'est vraiment un point très très important, en plus, voilà, de la planification à l'échelle des régions aussi, pour prévoir tous ces déplacements entre bassins de vie. Et puis, ça veut dire aussi que il faut favoriser le renouvellement urbain. Donc ça, il y a de plus en plus de villes qui le font. Il y a 2 millions de logements vacants aujourd'hui qui sont en partie insalubres, qu'il faut pouvoir voilà, réhabiliter, remettre de la mixité, etc. Il faut remettre des commerces là où il n'y en a pas. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc là, on a été voir... donc le WF a été voir justement 2 exemples de quartiers courte distance, hein, en allant voir ce que ça donnait quelques années après qu'ils aient été faits. Donc un dans l'agglomération de Rennes à Mordel, et puis l'autre en Grenoble, pour voir en fait, voilà, quand on fait des quartiers comme ça où les commerces sont à proximité, la nature est très présente, bah, vous allez voir les habitants et donner un peu la parole aux habitants, parce que souvent on parle entre urbanistes, élus, etc. Mais les habitants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et donc voilà, c'était plutôt assez positif, je dois dire. Ils étaient très contents. Au départ, ça, un appartement à la campagne, ça leur a fait bizarre, mais au final, ils étaient plutôt contents. Et quand on est allé voir justement Mordel, ce qui était intéressant, c'est que le maire, il avait préempté donc carrément des beaux commerciaux en centre-ville pour pouvoir maintenir une activité économique en centre-ville. Voilà, donc il y a des choses très claires qui peuvent se faire quand il y a une volonté politique. Il y a aussi le fait de rendre la ville plus agréable pour marcher, faire du vélo, etc. Et moins agréable quand on est en voiture, hein. C'est ça que ça veut dire aussi. Et ça, y a les moyens existent, même s'ils peuvent être renforcés par le projet de loi urbanisme. Et puis il y a l'opération d'urbanisme qui montre qu'on peut proposer autre chose que 4000 m² de jardin ou des tours, qu'on peut proposer des différentes formes d'habitat, qui sont intégrés dans le territoire, avec beaucoup de nature, etc., avec les commerces, etc., de proximité. Donc ça, c'est aussi de dire qu'il faut aussi une volonté politique, en plus de la planification, de faire des opérations d'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, la majorité de l'habitat se fait par des petites opérations de chacun qui fait un logement, etc. Donc voilà, reprendre en main l'urbanisme, lui redonner ses lettres de noblesse, parce que c'est une politique qui a été un peu oubliée dernièrement par les élus. Voilà.
D'accord. Bon, le challenge, c'est un peu d'inverser le discours d'il y a 40-50 ans où qualité de vie, c'était synonyme de préférence individuelle. Et, c'est, vous, pas, 'fin, le, là, quand on parle de... Je sais pas, hein, c'est une question, hein, sur on parle d'amélioration de la qualité de vie, justement, puis les modes douces, une activité physique, voilà, il y a quand même un certain nombre d'arguments en faveur de la ville dense pour augmenter cette qualité de vie. Samuel, je sais.
Plus que changer de l'individu, enfin s'éloigner de l'individu, je dirais que ce serait complexifier ce qu'on entend par qualité de vie. C'est-à-dire justement faire intervenir plus d'acteurs dans ce que c'est que l'urbanisme, être plus à l'écoute des modes de vie individuels. C'est-à-dire que les modes de vie sont assez étroitement contraints par les conditions existantes, toute la structure qui préexiste. Et de fait, si on se remet à faire intervenir davantage les habitants dans la construction urbaine, on arrive à mettre en évidence le fait que les modes de vie sont bien plus complexes que ce qu'on veut bien en voir. Et du coup, une solution de sortie, c'est aussi de moins proposer des choses en tant qu'urbaniste, en se disant « tout est entre nos mains, on a la possibilité de faire bouger simplement en bougeant la structure urbaine », et bien davantage de faire intervenir des modes de vie qui remontent d'eux-mêmes, qui s'expriment de plein de manières, et de se mettre simplement en état de les écouter.
Comme les causes de l'étalement urbain et ses différents effets, on voit qu'il y a de multiples outils à mettre en œuvre pour essayer de lutter contre le phénomène. On va écouter un extrait du documentaire de Pierre Gottschall, Rond-Point, et puis on va discuter avec lui de son documentaire.
Ils tourneront, ils tournent en rond, ils t'attendent toujours au tournant.
Ils sont le fleuron de nos routes départementales et la gloire du paysage routier français. Les ronds-points ou les giratoires, comme tu voudras. Au commencement, ils assuraient la fluidité du trafic et déviaient les courbes de la mortalité routière. Mais les ingénieurs ont peur du vide. Alors, sur ces galettes, un jour, quelqu'un s'est dit qu'on pourrait mettre quelque chose. Hymne au village de France, il rappelle la mémoire des lieux et permettent de regarder ce que nous sommes à l'aune de ce que nous ne sommes plus. Ils célèbrent l'identité des territoires, la création contemporaine, le retour à la nature, les beautés paysagères. Même s'ils ne sont répertoriés dans aucun guide touristique, ils sont aversés au patrimoine national et leur prolifération, plus de 40 000 en France, fait de l'Hexagone le champion du monde du cercle asphalté. Tu t'es dit qu'il faudrait faire ton tour de France des ronds-points, interroger ces lieux communs, et faire le tour de la question. Alors, tu t'es arrêté là où on ne fait que passer, et tu en as fait la collection.
Pierre Gottschall, on voit bien dans cet extrait le, à la fois l'objet et le ton que vous avez voulu donner à votre film. Comment l'idée vous est venue de travailler sur, de faire un film sur les ronds-points ?
Je pense que je suis un disciple parmi beaucoup d'autres de Georges Perec, et en disciple et amoureux de Georges Perec, je me suis intéressé à un sujet qui se caractérisait par sa banalité et son côté ordinaire. C'était précisément le côté non remarquable et banal du sujet qui m'intéressait. Le fait que ce soit un sujet délaissé et non extraordinaire. C'était le côté infraordinaire de ces objets tellement banals qu'on les oublie.
Même concrètement, on le frôle, le rond-point, mais on va rarement dessus, quoi. Vous, on vous voit dans le film aller sur un rond-point, voir ce qui se passe quand on est au milieu. Mais
c'est un no man's land. Et c'est un no man's land à l'intérieur de l'espace public. Et évidemment, pour moi, il présentait un double avantage. C'était que c'était un territoire délaissé de l'intérêt du discours. Et puis qu'en même temps, c'était un objet extrêmement répandu, proche de tous, chacun a son rond-point, chacun pourrait raconter le rond-point de son village, de sa ville, devant lequel il passe chaque jour. Et puis, c'est surtout un objet, pour moi, complètement métaphorique. C'est la métaphore du No Man's Land, c'est la métaphore de toute cette modernisation et de cette rationalisation du territoire qu'on a vu, qu'on a abordé, et finalement c'est aussi un objet qui produit dans sa rationalité beaucoup d'absurdité, et c'est ça qui m'intéressait, c'est à partir de cet objet du quotidien d'en faire une espèce d'objet de jeu et d'un objet de comédie, de réflexion et d'ironie.
C'est vrai que vous partez d'un objet ce qu'il y a de plus banal et vous arrivez à faire un film assez poétique, assez humoristique avec différents intervenants, et même vous-même dans le film on voit pas mal tourner autour, utiliser l'expression qui sont proches du rond-point, finalement à partir de voilà, d'un objet banal on arrive à faire quelque chose de...
C'est ça le point de départ du film, c'est on se dit si on interrogeait le monde et si on regardait le monde à partir d'un rond-point, d'aller dessus, physiquement ou métaphoriquement, et d'interroger la ville en particulier et le paysage à partir de ces objets-là, de ces objets où rien ne se passe, ça ne fait que circuler, on tourne autour, c'est le lieu où on ne s'arrête plus, c'est le lieu de la fluidité, et finalement, comme rien ne s'y passe, peut-être on se dirait il y aurait rien à en dire. Mais en fait, il y a beaucoup à en dire, évidemment.
Oui, parce qu'en fait, vous rencontrez un très grand nombre d'acteurs qui travaillent sur les ronds-points. On ne se rend pas compte, mais entre les urbanistes, les aménageurs, les espaces verts...
Alors nous ne sommes que de tristes usagers des ronds-points, mais en fait, il y a énormément de compétences diverses qui s'excitent un peu autour de cet objet. Alors ça va du paysagiste, mais qui est en fait le dernier convoqué bien souvent sur ces objets. Mais avant le paysagiste, il y en a bien d'autres. Alors évidemment, il y a les politiques, il y a les ingénieurs de la route qui pensent à la sécurité routière. Mais il y a effectivement les élus qui ont compris que ça pouvait devenir le blason, l'emblème de la ville, de l'entrée de ville. Alors on peut décliner à l'infini la manière de représenter l'identité locale.
Parce que à la fois, vous dites, c'est un peu un symbole de l'homogénéisation des modes de vie, des paysages, mais il y a aussi ce côté où les collectivités veulent se démarquer en faisant le plus beau rond-point, celui qui représente le mieux le terroir du coin.
On pourrait dire qu'il y a une compétition entre communes, entre chaque ville, entre chaque commune, entre chaque petit maire ou gros maire, moi mon rond-point est plus beau que le tien. Et en fait, on parlait des effets de standardisation tout à l'heure, mais l'autre effet, c'est que ça a été un retour des petites identités locales. Et on pourrait dire que le paradoxe, c'est que dans ces effets de standardisation, c'est un retour des micro-identités où chacun veut planter sa marque, son signe, son territoire. Mais c'est aussi le signe de l'organisation infinie du territoire. Et moi qui ne suis pas un spécialiste de l'urbanisme ou de la sociologie urbaine, j'ai voulu aussi prendre cet objet comme un objet philosophique, après tout, d'un monde dans lequel on tourne en rond, d'un monde dans lequel on a fait peut-être le tour déjà, et qu'il convient d'interroger sous d'autres formes, vers d'autres destinations. Donc de le prendre comme un objet poétique et humoristique pour en essayer de détourner le sens imposé par les ingénieurs et les compétences diverses. Et une dernière chose aussi, mais qui a été aussi un point de départ du film, c'est que c'est un objet qui fait consensus. Et que finalement, tout le monde trouve...
Par les doubles ronds-points peut-être.
Alors, les doubles ronds-points nantais...
En tant que Nantais, je sais que double rond-point n'est pas toujours...
Oui, il y a des ingénieurs de la ville qui ont inventé un double rond-point où peut-être il faut avoir fait des études extrêmement poussées pour en comprendre l'usage. Et on voit effectivement des espèces d'objets étranges qui ne font là peut-être pas consensus. Mais en tout cas, dans ce consensus où tout le monde va dans le même sens, que ce soit les opérateurs économiques, les supermarchés comme les élus comme les techniciens de la route, tout le monde... accumule finalement les discours, les intérêts, et toute la somme de ces discours rationnels produit quelque chose qu'à mon avis on peut regarder sous la forme de l'absurdité. Voilà. Et c'était ça l'objet principal de cette déambulation que tout le monde peut faire, c'est-à-dire c'est une invitation à pouvoir regarder la ville autrement à partir de ce qui lui est le plus ordinaire.
Et à partir de cette promenade poétique quand même, on voit il y a un intervenant qui parle de la mobilité, et voilà, il y a une espèce d'illusion de la mobilité parce que derrière voilà, chacun passe par différents points, chacun a sa distance à faire tous les jours pour aller au travail, mais derrière tout ça on voit aussi qu'il évoque à l'échelle globale de la mondialisation, il y a ceux qui ont accès sur ce thème de la mobilité, il y a ceux qui ont accès au pôle où se concentrent les richesses, les savoirs, et puis bah, il y a ceux qui se retrouvent dans les zones périurbaines, et bah, eux, ils font leur rond-point aussi, mais ils n'ont pas accès aux mêmes choses.
Alors là, c'est Marc Auger qui dit ça dans le film. Marc Auger, c'est un anthropologue qui s'intéressait au début de sa carrière aux villages africains, et puis qui s'est dit il faut s'intéresser aux sociétés postmodernes, contemporaines, et regarder non plus les lieux de résidence qui étaient les villages africains, mais regarder les lieux justement où on n'est fait que passer, ce qui était aussi l'hypothèse du film, s'arrêter là où on ne fait que passer. Et Marc Auger s'est intéressé d'abord effectivement à la sociologie, à l'anthropologie même de ces sociétés où on ne fait que bouger, que circuler. Et à propos des lotissements, le fait de cet étalement urbain, lui parle par exemple de non plus de lieu de résidence, mais d'assignation à résidence. Et effectivement...
Un retournement de vocabulaire.
Et cette assignation à résidence, on peut effectivement renvoie à cette illusion de la mobilité. On a l'impression de pouvoir bouger, de pouvoir circuler, mais on tourne en rond et on est renvoyé chez soi, où entre-temps on a fait juste un tour au supermarché du coin. Donc c'est une vision peut-être cauchemardesque, mais pour en sortir, finalement, la seule espérance qu'on peut avoir, c'est d'y trouver, d'y mettre un peu de poésie et de ces lieux qui sont utiles pour des usagers, mais qui à d'autres moments se mettent en attente de quelque chose quand ils sont vides, comme les halls d'aéroport ou les parkings le week-end, le soir, quand il n'y a plus personne. Ça devient des lieux étranges qu'on peut essayer de regarder autrement et d'y trouver peut-être un peu de poésie.
Donc je vous propose de terminer hein, sur cette note poétique, parce que malheureusement le temps passe et l'émission touche à sa fin. Donc c'était un sujet très intéressant hein, qui mériterait peut-être d'ailleurs un retour sur les ondes pour faire un peu le bilan des poétiques d'aménagement dans le futur. Voilà, je tenais à remercier Samuel Poisson hein, du bureau de recherche Aménité, Juliel Croix de l'association WWF France, Pierre Guachel, donc réalisateur du documentaire Rond-Point. Cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org. C'était notre dernière émission de la saison. L'été sera consacré à des rediffusions. On se retrouve maintenant en septembre et on se quitte en chanson sur un morceau des Cowboys Fringants, les gars de la compagnie. Bonne soirée.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine.